que ce soit vraiment la prière de notre cœur, ces paroles des chants. Vous savez, on chante des chants tous les dimanches matin. Et ces chants ont un sens. Les paroles, c'est pas juste les paroles dans l'air. Voilà, on chante parce que. Non, c'est parce que ces paroles doivent être vécues dans notre vie. Et des paroles aussi qui doivent être vécues dans notre vie, ce sont des paroles de la Bible. Et c'est ce que nous allons ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Nous allons voir la deuxième partie de ce chapitre. Jean, chapitre 2. Souvenons-nous, nous sommes à la découverte de Jésus. Quelqu'un que nous sommes censés bien connaître. Et pourtant, on se rend compte par moments, il y a peut-être des lacunes, il y a peut-être des oublis aussi. Et notre désir doit toujours être de mieux connaître Jésus. Et le but de Jean, je vais le rappeler souvent pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on ne passe pas à côté. Le but de Jean, c'est que ceux qui lisent cet évangile sachent qui est Jésus. Et en sachant qui il est, ben qu'ils croient en lui, qu'ils mettent leur confiance en lui. Nous avons la possibilité de nous mettre notre confiance en plein de choses. Dans l'argent, dans un travail, dans la santé, dans vous prenez tout ce que vous voulez. Et pourtant, ce que Jean cherche à faire, c'est que chacun qui connaisse Jésus mette leur confiance, leur foi en lui pour toute situation de la vie. Et c'est le sens de tout ce que Jean écrit. Il va écrire ce qu'il écrit pour nous pousser à mieux connaître Jésus et avec cette connaissance que notre foi grandisse. Si vous êtes avec moi dans Jean chapitre 2, nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 25, c'est-à-dire la fin du chapitre. Jean chapitre 2. À partir de verset 12, suivez avec moi alors que je fais la lecture de ces versets. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs d'assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende de témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Prions pour demander la bénédiction de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous avons besoin de ton aide pour la comprendre. Que par ta puissance, tu nous éclaires, que tu nous montres ce que tu as pour nous et ainsi que nous puissions le mettre en pratique afin que toi, tu sois exalté et glorifié. En ton nom, nous prions. Amen. Nous lisons ce passage et peut-être notre optique concernant Jésus peut changer un peu, puisque souvent nous avons cette image de Jésus, un homme doux, un homme humble, un homme qui agissait avec bonté, avec douceur, qui accueillait des enfants, qui faisait du bien autour de lui. Et puis nous arrivons à un passage comme celui-ci où on le voit presque en colère. On le voit, il renverse des tables. On se donne un peu une image de comment ça devait se passer. Des films qui ont été faits sur la vie de Jésus montrent cette scène. Et voilà, on le voit qui prend les tables, qui jette, qui chasse. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme qui est censé quand même apporter l'amour, qui est censé apporter la douceur, être l'image de Dieu? Et voilà, il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Voilà pourquoi Jean l'a décrit. Et pour nous aujourd'hui, 21e siècle, avec un peu de recul, il nous faut bien comprendre ce qui se passe. Alors revenons au verset 12, puisque c'est finalement la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Si vous vous souvenez, Jésus a accompli le miracle à Cana, en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Il était dans un mariage, il se réjouissait, il participait à la vie normale des personnes qui l'entouraient, ne se privait pas de se réjouir et de participer à ce que la vie peut offrir, toujours dans de bonnes conditions, bien sûr, soyons clairs là-dessus. Et c'est suite à ce miracle, cet événement à Cana, qu'il va descendre à Capernaum, probablement chez Simon, chez Pierre, pour être avec lui. Et nous voyons qu'il est avec sa mère, ses frères, ses disciples. Il y a un petit monde là, un petit groupe qui descend. Et on peut comprendre que là aussi, eh ben, ils vivent une vie normale. Souvent, on a cette image de Jésus comme il est Dieu, comme il est tellement différent sur tellement de niveaux par rapport à nous, qu'il avait une vie qui était complètement différente de la nôtre. Et finalement, ce que nous apprenons à travers les évangiles, c'est que Jésus avait une vie plutôt ordinaire. Jésus avait une vie qui ne ressortait pas de l'ordinaire, qui était tout à fait comme les autres qui étaient autour de lui. Bien sûr, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, mais en même temps, il avait une vie normale, il interagissait avec les autres tout à fait de façon normale, toujours manifestant l'amour, toujours manifestant la bonté, la grâce, toutes ces choses. Et nous voyons qu'avec ses disciples, avec sa famille, ils sont là à Capernaum, probablement, comme j'ai dit, chez Pierre, qui les a accueillis. Et ils vont rester quelques jours là avant d'aller faire quelque chose de très important. À partir du verset 13, nous voyons qu'ils montent à Jérusalem pour la Pâque. Et quel exemple pour nous, Jésus, depuis son enfance, depuis l'âge de 12 ans, si vous vous souvenez, aller à Jérusalem au temple pour la Pâque. Et pourtant, lui, il est Dieu. C'est lui, par son père, qui avait instauré la Pâque. Et à ce moment-là, on peut dire, mais Jésus, pourquoi il y va? Finalement, il n'en a pas besoin, il est Dieu. La Pâque, c'était pour le passé et tout cela. Et pourtant, nous voyons Jésus qui accomplit tout. Il se soumet à son père. Et ici, il va avec ses disciples, il va avec sa famille, pour accomplir ce que Dieu avait mis en place. Et quel exemple pour nous? Nous sommes enfants de Dieu si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Je prie que ce soit le cas de chacun ici. Et si nous sommes enfants de Dieu, cela ne veut pas dire que nous pouvons faire simplement ce que nous voulons. Ah, ça c'est certaines choses, c'est pour les autres. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Ah non. Dieu attend certaines choses de nous. Et Jésus, lui, il avait très bien compris. Et Jésus ne pouvait pas dire, maintenant je rentre dans mon ministère et je n'ai plus besoin de toutes ces autres choses. Non, j'ai quand même besoin d'obéir à mon Père. J'ai besoin de montrer un exemple. Et donc, Jésus va à Jérusalem. Il va à l'endroit désigné par Dieu. On n'avait pas le droit de célébrer la Pâque ou les autres fêtes n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle date. Non, c'était dans un endroit spécifique, à une date spécifique, dans des circonstances très particulières. Et au verset 14, Jésus va trouver quelque chose de tellement horrible. Il le savait, bien sûr, mais là, il va trouver... Et peut-être pas pour la première fois, parce que tous les ans, on a la conviction que Jésus allait tous les ans au temple. Et là, il va trouver dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs assis. Il va trouver ici du business, de la commerce. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Nous avons lu ce passage probablement des dizaines de fois et nous connaissons l'histoire, donc ça ne nous choque peut-être pas autant que ça devrait, mais lorsque nous voyons que Jésus, il arrive dans le temple, et que ceci soit clair, on n'est pas à l'intérieur du temple, on est dans le parvis. Donc voilà, ce n'est pas comme si ces animaux étaient directement dans le temple, mais dans le grand parvis, ce qu'on appelle la cour des gentils, des païens. C'était là, mais tous ces animaux dans un lieu qui était censé être pour Dieu. Vous imaginez, le temple qui était l'endroit où Dieu se rencontrait avec son peuple. Et là, c'est un magasin. C'est le commerce, c'est la vente, c'est même de la triche. Puisque ces changeurs de monnaie, c'était quoi en fait? Les gens qui venaient, surtout de l'extérieur, ils avaient de la monnaie romaine. Et pourtant, ce qu'on devait payer au temple devait être payé dans la monnaie juive. Tout le monde ne l'avait pas forcément. Alors il fallait faire l'échange. Si on venait de loin et on n'avait pas cette monnaie, il fallait faire l'échange. Et là, les changeurs de monnaie se frottent les mains et disent, les gens ils n'ont pas d'autre choix. On va faire un taux d'échange un peu plus élevé. Ils sont obligés de faire changer leur monnaie, donc on va en profiter. Est-ce que Dieu est là-dedans? Non, absolument pas. Et Jésus arrive devant cette situation. Et nous avons un peu cette scène dans notre esprit et on critique à juste titre ces changeurs de monnaie, ces vendeurs qui étaient là. Ils n'avaient rien à faire là. Alors, bien sûr, les gens, ils avaient besoin d'animaux pour les sacrifices. Alors, ces bœufs, ces pigeons, des brebis, c'était des animaux qui devaient servir à des sacrifices. Et donc, c'était destiné à ces sacrifices qui étaient exigés de Dieu. Donc, il fallait les avoir, mais le but dans lequel ils étaient là était complètement anti-Dieu. Et nous critiquons ces personnes en disant, mais ils auraient dû agir différemment. Et nous avons peut-être l'idée que peut-être c'est venu du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on a pu faire du temple de Dieu, de sa maison, là où il s'encontrait avec son peuple, comment est-ce qu'on a pu permettre à de telles choses de venir? C'est pas possible, nous disons. Et nous avons raison de les critiquer. En même temps, comprenons que petit à petit, cette pensée s'est glissé dans l'esprit. Et si on faisait ça? Et si on changeait un peu? Et, les gens, ils viennent de loin. Ils doivent avoir les sacrifices, alors pourquoi pas leur proposer d'acheter des animaux sur place? Ça les évite d'emmener des animaux de loin qui risquent soit de se blesser ou même de mourir en chemin. Et les gens qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas la monnaie, proposons-leur de changer. Et je veux bien croire que... Ceci part d'un bon esprit, d'une bonne volonté de permettre aux gens d'adorer Dieu correctement. Mais on voit la fin ici. On voit que cela a été complètement changé. Et que Jésus, au verset 16, va dire, vous faites de la maison de mon Père une maison de trafic. Dans un autre passage, la deuxième fois qu'il va nettoyer le temple, il va parler d'une caverne de voleurs. Vous voyez, c'est quand même grave. C'est très grave. Et lorsque nous examinons notre propre vie, nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu habite en nous, si nous sommes enfants de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, habite en nous. Et comment est notre vie? Si Jésus regarde notre vie, et c'est ce qu'il fait, est-ce qu'il serait obligé de nettoyer, de faire un peu le ménage comme il fait ici? Est-ce que nous sommes tombés un peu dans des compromis? Est-ce que peut-être partant d'une bonne volonté, nous sommes tombés dans tout simplement le pragmatisme? Parce que ça marche, parce que ça me semble bien, parce que ça me semble logique, je vais me permettre de faire telle ou telle chose, je vais me permettre d'aller dans tel ou tel endroit, je vais me permettre de parler d'une certaine façon. Et si Jésus examine, et c'est ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit dans notre cœur des vendeurs, des changeurs de monnaie? Parce que finalement, ce qui se passait au temple à Jérusalem était exactement ce qui se passait dans d'autres temples de faux dieux un peu partout dans l'Empire romain. Alors que le temple était censé être différent. Le temple, le lieu pour adorer le vrai Dieu. Que les autres fassent cela, peu importe. Ce sont de faux lieux de toutes les façons. On est à côté. Mais nous, les Juifs, ils auraient dû agir différemment. Et pourtant, Jésus les trouve faisant exactement la même chose que les autres faisaient. Et ici, il fait ce ménage. Il fait un nettoyage. Et dans notre vie, parce que Jésus nous examine, c'est pas juste « si », comme s'il ne nous voit pas. Non, Jésus nous voit. Et parce qu'il examine notre vie, parce qu'il vient, il est en nous, si nous le connaissons par la foi, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit tout simplement un désir de faire de l'argent? D'être confortable, non pas qu'il y a quelque chose de mal avec l'argent et d'être confortable. Ce sont de bonnes choses venant de Dieu. Mais lorsque nous en faisons un but en soi, cela devient mauvais. Et ces vendeurs, ces changeurs de monnaie, ne faisaient aucun cas de ces personnes qui venaient, qui avaient probablement le désir d'adorer Dieu. Mais ces vendeurs et ces changeurs de monnaie disaient, bah, peu importe, moi je veux faire mon business, mon commerce. Et parce que Jésus examine notre vie, ben, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit de la triche? Est-ce qu'il voit de la malhonnêteté? Est-ce qu'il voit tout simplement un désir pour avoir plus? Ou est-ce que plutôt il voit un désir d'adorer Dieu avec les moyens que Dieu nous donne? Est-ce qu'il y a le ménage qui doit être fait dans notre vie? Verset 14, Jésus va trouver dans le temple, encore une fois, dans le parvis, ce n'était pas dans le bâtiment même du temple, mais dans le parvis, là où tout le monde pouvait entrer, les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs assis. Et puis, le verset 15, nous, je ne sais pas vous, mais me choque un peu, on en a déjà parlé. Et on fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple. Jésus, bon, le texte n'est pas explicite, on ne sait pas s'il a vraiment frappé des gens, s'il a vraiment tapé dessus, on a cette impression, mais le texte n'est pas précis. Peut-être qu'il n'a touché personne, mais les a menacés tout simplement. Partez sinon, voyez. Le texte n'est pas précis, on donne souvent cette image que voilà, il tapait des gens, il les fouettait et tout, bon. Le texte est un peu ambigu dans ce sens, mais au moins, il les a menacés. Et ce n'est vraiment pas l'image de Jésus qu'on a la plupart du temps, n'est-ce pas? Jésus qui est là et qui menace, qui a avoué à la main, partez sinon. Et puis il prend ses tables et il les renverse. Alors tout à l'heure, on aura le repas en commun. D'accord? Que personne ici ne fasse cela. D'accord? Ne renversez pas les tables. Et ne voyez pas le fait qu'on ait le repas fraternel ici avec des tables et tout, que ce soit une mauvaise chose. Non, 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 non. Non. Mais Jésus, il va renverser les tables, il va disperser cet argent. C'est quand même une réaction radicale. Vous êtes d'accord? Quand même. Lorsque nous voyons dans le début du chapitre 2, Jésus fait ce miracle pour réjouir des personnes, il change l'eau en vin. Il participe à ce mariage, tout se passe bien, on est dans la joie, on se réjouit. Et puis on vient à un passage comme ça et on se dit, mais Jésus, tu n'aurais peut-être pas pu agir un peu autrement, essayer de raisonner avec eux, mais allez, partez, vous voyez, c'est pas tout à fait juste ce que vous faites, alors prenez votre argent, prenez vos animaux, partez, allez dans ce lieu et tout. Non, Jésus, pour lui, il n'y a rien du tout de tout cela. Partez, je vous chasse. C'est quand même radical là, n'est-ce pas? Parce que Jésus a compris l'importance de cette adoration envers Dieu et de l'exemple qu'on donnait aux autres. Parce que, comme il va dire, le temple, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de notre relation avec Dieu. Et ce lieu, il est censé montrer aux autres comment nous sommes avec Dieu. Et imaginez-vous des non-juifs ou des personnes à Jérusalem qui n'allaient pas forcément au temple adorer Dieu, mais ils passent à côté, se promènent un peu, et puis là, ils voient que dans le parvis du temple, il y a cette vente qui se fait. C'est comme un marché. Et ils se rendent compte, ils entendent, ah, là, il y a de la triche. Là, il y a de la malhonnêteté. Ils entendent quelqu'un dire, ah ouais, mais vous vous rendez compte, j'ai dû changer ma monnaie, mais le taux, il était tellement élevé. Et ce bruit qui pourrait courir. Et tout cela, les gens, ils se disent, mais si c'est ça, adorer Dieu, moi, je ne veux pas de ça. Et on comprend l'indignation de Jésus. On comprend sa réponse radicale face à cela. On se dit, mais quel témoignage! Si les Juifs au temple n'agissaient pas différemment des autres, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir attirer d'autres? Et le même principe s'applique à nous. Pas forcément entre les quatre murs de ce bâtiment, bien que ça doit se faire ici, mais entre les quatre murs de votre maison. Dans votre esprit, dans votre vie, si nous ne sommes pas indifférents de ce monde, comment allons-nous pouvoir apporter quelque témoignage que ce soit? Et à cause de cela, il est possible que des décisions radicales soient prises. Il est possible qu'on soit obligé d'enlever des influences de notre vie. J'ai connu des personnes, c'était notamment un pasteur, mais j'en connais d'autres, qui ont carrément enlevé la télé de chez eux. Et ils sont restés en vie, hein, vous savez, c'est impressionnant. On peut vivre sans télé. Des personnes qui n'ont plus de téléphone portable. Ces personnes-là aussi sont restées en vie, vous savez. C'est impressionnant. On peut vivre sans. Des personnes qui ont apporté des changements dans leur vie. Parce que leur témoignage était affecté par telle ou telle chose. Des personnes qui ont dû couper d'avec d'autres personnes. Parce que l'influence de cette personne leur nuisait, ne leur était pas profitable, tâchait leur témoignage. Et bien sûr, nous, nous n'allons pas fabriquer des fouets. Enfin, j'espère. Si vous avez le désir, venez me parler, on discutera de ça. Nous n'allons pas fabriquer des fouets, allez, frapper des gens. D'accord ? Et pourtant, la façon radicale de Jésus d'agir ici, ce principe, doit être appliqué à notre vie. De réfléchir à notre vie et de dire, y a-t-il quelque chose ? Y a-t-il quelqu'un dans ma vie que je ne suis pas prêt à remettre en question pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel je vais où je dis, cet endroit, je ne pourrai jamais ne pas y aller? Je ne remets jamais cela en question, sauf l'Église. Okay. Ne remettez jamais en question le fait de venir à l'église. D'accord? Il est toujours la volonté de Dieu que vous veniez à l'église. Bon. Mais en dehors de ça, telle ou telle chose dans notre vie, j'ai parlé de la télé, mais voiture, téléphone portable, toute autre affaire dans notre vie, nous devrions être prêts à remettre ça en question et de dire, est-ce que ceci m'aide dans ma relation avec Dieu ? Nos loisirs pourraient être un empêchement à notre témoignage envers les autres. Moi, j'aime bien les voitures, vous le savez. D'autres, c'est le sport, le foot, les infos, que sais-je encore. Sommes-nous prêts à prendre des décisions radicales si elles sont nécessaires ? Afin de pouvoir avoir un témoignage pour Dieu. Jésus, ici, il fait quelque chose quand même de radical. Et au verset 16, il va dire ceci, « Ôtez cela d'ici, en parlant des vendeurs de pigeons, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, c'est-à-dire arrêtez. » Il dit, arrêtez, vous êtes en train de le faire, arrêtez. Et y a-t-il quelque chose qui doit être arrêté dans notre vie? Possible. Et si nous résistons à cela, si nous disons, ah non, je ne pourrai jamais vivre sans. Je ne pourrai jamais laisser partir cela. Je ne pourrai jamais changer. Non, ça fait partie de moi et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous avons besoin de prendre une décision radicale à ce moment-là. Ce sera différent, bien sûr, dans la vie de chacun de nous. Ce qui affecte l'un ne m'affectera pas moins. Et ce qui m'affecte moi n'affectera pas peut-être mon frère ou ma sœur. Mais ici, Jésus nous montre que parfois, des décisions radicales sont nécessaires. Et nous ne devons pas avoir peur de cela, parce que c'est pour le témoignage. Et justement, le verset 17 nous montre cela. Je me mets à la place des disciples qui voient Jésus, cet homme, que maintenant ils connaissent depuis quelques temps, peut-être quelques mois au plus. Il avait vu faire ce miracle quelques jours plus tôt. À Cana, et maintenant il le voit pratiquement transformé. Ils disent, mais c'est qui cet homme là? Et la façon d'agir de Jésus a eu un impact sur les disciples, parce que regardez verset 17, les disciples se souvinrent, toujours bien de se souvenir. Ça veut dire qu'ils connaissaient l'Ancien Testament, parce que c'est un verset de l'Ancien Testament qui va venir dans leur esprit. Ils se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». La façon radicale de Jésus d'agir a stimulé les disciples. Leur a fait dire « Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, je vais devoir faire comme cela. » Et puis, verset 22, Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait avait un impact sur ses disciples et aussi sur les gens qui l'entouraient. Nous ne sommes pas des îles tout seuls, un peu perdus au milieu de la mer. Non. Nous avons une influence les uns sur les autres. Et si je me laisse aller, si je permets dans ma vie des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je risque d'entraîner d'autres dans cela. Mais si par contre, par la grâce de Dieu, je prends une décision radicale et je fais du ménage, ou plus exactement, je laisse Dieu faire du ménage dans ma vie, et quelqu'un d'autre voit cela, ça peut l'encourager pour dire « Ah, cette personne l'a fait par la grâce de Dieu, moi aussi. » Je vais permettre à Dieu de faire ce ménage dans ma vie. Les disciples se souviennent. Ils voient Jésus et ils se disent « Ah oui, d'accord. » Son influence, son exemple les a stimulés. Mais à partir du verset 18, nous voyons que lorsqu'on agit pour Dieu, lorsqu'on fait ce qui est juste, lorsque aussi nous prenons des décisions radicales, il y a souvent de l'opposition. Tout le monde ne comprend pas. Verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Quelle autorité, c'est l'idée derrière. Non mais, comment tu te permets de faire cela? C'est pas possible. C'est le temple, c'est la maison de Dieu. Mais qui es-tu? Nous voulons voir un miracle pour confirmer l'autorité. Il y a de l'opposition, il y a de l'incompréhension. Et verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, vous détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Quel est le miracle? Ben, le miracle, c'est la puissance de Dieu, finalement. Alors, verset 20, les Juifs, ils ne comprennent pas. On les critique, et à juste titre. Ils auraient dû comprendre, mais bon, ils n'ont pas compris. Ils pensaient tout simplement terrestre. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. Non, mais c'est pas possible. 46 ans, quand même, avec les moyens techniques qu'ils avaient. Ils disent, mais c'est pas possible. Et verset 21, Jean nous met petite précision pour que ce soit bien clair, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et parler du temple de son corps. Donc, il ne parle pas du bâtiment à Jérusalem, mais il parlait de son corps. Et nous voyons que lorsque nous prenons une décision radicale pour Dieu, lorsque nous laissons Dieu agir dans notre vie, les gens autour de nous ne comprendront pas forcément. Et les gens resteront malheureusement, surtout des inconvertis qui sont autour de nous, vont rester terre à terre. N'ont pas la compréhension spirituelle pour comprendre ce que Dieu est en train de faire en nous. Et pourtant, cela ne doit pas nous arrêter. Parce que Dieu est avec nous. Et Jésus le savait. Jésus savait que 3 ans plus tard, il irait jusqu'à la croix. Il savait que 3 ans plus tard, il passerait 3 jours dans le tombeau. Et aussi, gloire à Dieu, après ces 3 jours, il ressusciterait. Jésus savait que son Père était avec lui. Et si nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, Dieu est avec nous. Et même si les autres autour de nous ne comprennent pas les choix que nous faisons, nous devons rester attachés à Dieu. Nous devons permettre à Jésus de nous aider de faire ces choix radicaux, ce ménage radical dans notre vie. Les autres ne comprendront peut-être pas. Les inconvertis, parce qu'ils manquent d'intelligence spirituelle, resteront terre à terre, vont nous remettre en question, vont essayer peut-être même de nous arrêter. Mais parce que Jésus est allé jusqu'au bout, nous pouvons également. Et c'est au verset 22, de nouveau, ce verset que nous avons déjà cité, les disciples se souviennent. Ils avaient entendu Jésus dire qu'il relèverait le temple, il parlait du temple de son corps. Et ils croient. Ils font confiance déjà dans ce que Dieu avait écrit, mais également dans ce que Jésus lui y dit. Et notre façon d'agir peut stimuler d'autres à plus de confiance dans ce que Dieu dit. Peut les pousser à prendre des décisions pour Dieu. Mais faisons attention. Versets 23, 24, 25. Jean termine ce chapitre en nous donnant cette petite info. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. On peut dire, bah, gloire à Dieu. Jésus agit. Il avait déjà agi pour le miracle de Cana, mais bon, ça c'était un peu limité. Mais là, il est à Jérusalem. C'est des milliers de personnes qui sont présentes pour la Pâque d'un peu partout. Et il voit certains croient. Gloire à Dieu, amen, que de plus merveilleux. Verset 24, mais. Quand vous voyez le mot mais, attention, parce que là, ça change. On pense que ça va dans une direction, mais finalement, ah non, ça va dans une autre direction. Jésus ne se fiait point à eux. C'est assez intéressant, il n'a pas mis sa confiance en eux. Eux, ils ont mis leur confiance en lui. Mais lui, il ne se confiait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce que Jean explique là? Certains font confiance en Jésus, mais lui, il ne se confie pas en eux. Qu'est-ce qui arrive? Finalement, Jean nous explique ici que ce que Jésus faisait stimulait la confiance de personnes en lui. Et ça, c'est très bien. Lorsque Jésus a agi, les gens se confient en lui. Gloire à Dieu. Mais Jésus n'avait pas besoin du témoignage de ces personnes pour être fils de Dieu, pour être Dieu lui-même. Même sans la foi, la confiance de ces personnes, Jésus serait toujours ce qu'il est. Si ces personnes n'avaient pas cru en lui, ça n'enlevait rien de ce que Jésus était en sa personne de fils de Dieu. Et parce que ces personnes ont cru, cela ne faisait pas de Jésus quelqu'un de plus fils de Dieu ou plus Dieu qu'avant. Jean veut être très clair ici que ce que nous faisons n'apporte rien à Dieu. Parce que nous faisons confiance à Dieu, ne lui apporte rien, dans le sens ne fait pas de lui quelqu'un de plus Dieu ou plus quoi que ce soit. Non. Dieu, il est ce qu'il est. Ce qu'il attend de nous, c'est la confiance. Mais ne tombons pas dans le travers que parce qu'il y a moins de gens qui se confient en Dieu, que Dieu est un peu amoindri. Ou que s'il y a plus de gens qui se confient en Dieu, il est plus grand. Non. Dieu, il reste le même. Lui, il ne change pas. Il ne peut pas être plus grand. Il ne peut pas être moins. Et Jésus montre par sa connaissance dans ces versets, il savait ce qui était dans l'homme. Nous pouvons nous tromper les uns les autres, n'est-ce pas? Nous ne devons pas, mais nous pouvons. Nous ne sommes pas toujours honnêtes les uns avec les autres. Mais Jésus voit notre cœur, tout comme il voyait le cœur de ces personnes à Jérusalem. Et parce que Jésus voit le cœur, il sait si les décisions que nous prenons sont vraies ou pas. Et ce que Jésus voulait éviter ici, c'est que les gens, voyant les miracles, étant stimulés, étant pris un peu d'émotion, ouais, c'est merveilleux, cet homme, Jésus de Nazareth, il va faire ces choses. Les gens ont pris d'émotion, ils auraient pu suivre pour de mauvaises raisons. Et Jésus ne voulait pas du tout cela. Et gloire à Dieu que ces personnes se confiaient en Jésus. Mais Jésus dit, attention, attention. Les décisions que nous prenons, les décisions radicales, notre obéissance, notre soumission à Dieu, tout ce que nous faisons doit venir d'un cœur sincère, doit être motivé, non pas simplement par ce que nous voyons, les choses extraordinaires que Dieu fait, et gloire à Dieu qu'il les fait. Mais nos décisions doivent être motivées par un amour pour Dieu, par l'exemple de Jésus-Christ. Et lorsque nous examinons notre vie, est-ce que nous sommes prêts, non pas simplement à suivre la foule, non pas simplement à faire comme les autres, non pas faire pour être vu, mais est-ce que nous sommes prêts, même si personne d'autre ne le voit, à laisser Jésus faire quelque chose de radical dans notre vie? Ça passe par le ménage. Ça passe par un nettoyage que Jésus veut faire. Ce monde, il est sale, n'est-ce pas? Les inconvertis autour de nous nous influencent pour le mal. Et parfois, il est nécessaire, et je dirais souvent, il est nécessaire de laisser Jésus faire un nettoyage radical, un ménage radical dans notre vie, au niveau spirituel. Et cela passe peut-être par des décisions concrètes, radicales dans notre vie. Sommes-nous prêts à cela? Nous rendons-nous compte que cela peut influencer d'autres, peut stimuler d'autres, et que finalement c'est Dieu qui sera glorifié? Sommes-nous prêts pour cela? Où en est notre temple? Jésus habite en nous si nous sommes enfants de Dieu. Quelle place nous lui faisons? Quelle place Jésus trouve dans notre cœur? À chacun de réfléchir, Jésus nous montre l'exemple ici. Maintenant, allons-nous le faire? Je prie que oui. Nous avons des décisions à prendre. Chacun, chacun. Moi, vous, sommes-nous prêts à suivre l'exemple de Jésus? Nettoyer, faire le ménage dans notre cœur et tout pour la gloire de Dieu. Prenons quelques instants dans le silence, dans la prière, pour demander l'aide de Dieu pour ça. Oui, Seigneur, nous te louons pour ton exemple que tu nous donnes. Nous demandons ton aide parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de prendre quelque décision que ce soit. Mais avec toi, avec ta puissance, nous pouvons tout faire parce que c'est toi qui nous fortifies. Que tu nous donnes déjà le désir d'avoir une vie de sainteté, une vie qui est pour toi. Nous faisons appel à toi et nous savons que tu répondras, que tu donnes le désir à chacun, que tu nous remplisses de ta force, qu'il soit évident que tu es à l'œuvre, Seigneur, que les gens autour de nous le voient, que ces décisions radicales que tu nous aideras à faire puissent stimuler d'autres et que ainsi il soit vu que c'est toi, que tu reçois toute l'honneur, toute la gloire pour cela, parce que tu le feras, parce que tu es puissant. Nous te remercions d'avance pour ce que tu feras. En ton nom. Amen.